Vous êtes bien à l'écoute de RFI, les 15h en temps universel, 17h à Paris et 18h à Beyrouth. Le journal vous est présenté par Charlotte Idrac. Bonjour Charlotte.
Bonjour. Affaibli mais déterminé, le Hezbollah promet de poursuivre sa lutte contre Israël. Déclaration du numéro 2 du mouvement chiite. De son côté, l'État hébreu agite la menace d'une opération terrestre au sud du Liban. L'armée israélienne a frappé au cœur de Beyrouth, dans la capitale intramuros, une première depuis près d'un an. À suivre aussi Maria Corina Machado, l'opposante vénézuélienne, lauréate du prix Vaclav Havel du Conseil de l'Europe. Les conservateurs en conclave au Royaume-Uni, désormais dans l'opposition après 14 ans de pouvoir. L'ouverture du procès du Rassemblement National et de ses cadres en France, accusés de détournement de fonds européens. Et puis Antoine Griezmann et l'équipe de France, c'est fini. Le vice-capitaine des Bleus prend sa retraite internationale. C'est une première déclaration depuis la mort d'Hassan Nasrallah. Dans une déclaration à la télévision, son numéro 2, Naïm Kassem, affirme donc que le mouvement chiite libanais choisira un successeur dès que possible, que le Hezbollah poursuivra sa lutte contre Israël et se dit prêt à une éventuelle opération terrestre israélienne au Liban. Correspondance à Beyrouth, Paul Ralifi.
Naïm Kassem avait manifestement un objectif principal, celui de rassurer les partisans du Hezbollah et la base populaire, encore sous le choc de la disparition de Hassan Nasrallah. Il a évoqué des plans de contingence activés, assuré que le système de commandement et de contrôle fonctionne parfaitement, que les commandants tombés ont été automatiquement remplacés par leurs adjoints et que les capacités militaires sont solides. Comme preuve de ces propos, Naïm Kassem a indiqué que les attaques contre Israël depuis la mort de Hassan Nasrallah se poursuivent au même rythme qu'avant, voire plus intensément. Il a prévenu que la bataille pourrait être longue et que le parti y est bien préparé, y compris en cas d'opération terrestre israélienne. Naïm Kassem a accusé les États-Unis d'être, je cite, « complices des massacres perpétrés par l'armée israélienne contre les enfants, les femmes, les secouristes, qui ne sont pas des combattants, mais qui sont tués quand même ». Même s'il a voulu être rassurant, le discours de Naïm Kassem laisse des questions sans réponse. Il n'a pas annoncé une date pour les funérailles de Hassan Nasrallah, et n'a pas donné l'impression que le choix d'un successeur sera rapide. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Beyrouth, une frappe israélienne a fait 4 morts la nuit dernière. Première opération dans la capitale, au centre depuis près d'un an. Le ministre de la Défense israélien lui a prévenu la mort d'Hassan Nasrallah était une étape importante, mais pas la dernière. Déclaration aussi du chef de la diplomatie américaine. Pour Anthony Blinken, le monde est plus sûr, je cite, après la mort d'Hassan Nasrallah, qu'il qualifie de terroriste brutal. Son homologue français Jean-Noël Barrot, en visite officielle à Beyrouth, veut croire, lui, que les solutions diplomatiques existent au Liban. Il exhorte Israël à ne pas lancer d'offensive terrestre sur le territoire libanais. Alors dans ce contexte toujours très incertain, les populations civile continue de fuir les zones ciblées. Près de 100 000 personnes ont franchi la frontière vers la Syrie, selon l'ONU, et l'exode se poursuit par la route ou par les airs pour ceux qui le peuvent, même si les vols disponibles sont rares à l'aéroport de Beyrouth. Reportage Abla Jounaïdi et Jadel Khoury.
Voilà une semaine que les compagnies aériennes internationales ont suspendu leurs vols vers le Liban à cause des bombardements israéliens. Seul transporteur désormais, la compagnie nationale Middle East joue un rôle vital pour permettre aux Libanais de la diaspora, comme Nadine, originaire de Tripoli dans le Nord, de rentrer chez eux.
Je vais en Suède, je vis là-bas. J'étais venue passer 5 jours ici et puis tout ça est arrivé. Mon vol a été annulé et ça fait presque 2 semaines que je suis au Liban. J'ai été obligée de prendre un vol Middle East. Je ne sais même pas comment j'ai trouvé à ce prix. Des agences en profitent pour vous vendre des billets à 2 000, 2 500 $, alors que c'est 4 fois moins cher en réalité avec 2 bagages. Je n'ai pris qu'une valise parce que je voulais partir rapidement. La situation fait très peur.
Youssef, lui aussi, rentre en Europe et c'est un crève-cœur. Il est originaire du sud du Liban, région pilonnée par l'armée israélienne.
Israël n'épargne ni les civils ni les enfants. C'est ça qui fait peur, qui terrorise. Celui qui dit le contraire est un menteur. Nous vivons à l'étranger. Nous venons visiter le Liban, notre patrie, là où nous sommes nés, où nous avons grandi et où on revient toujours. Jusqu'où ça va aller? Toute notre vie n'est faite que de sang, de terreurs successives. Nous ne savons pas trouver la tranquillité, la stabilité.
Au-dessus de la zone de l'aéroport, les drones israéliens font entendre leur bourdonnement incessant, une présence censée dissuader tout aéronef jugé suspect de se poser à l'aéroport international de Beyrouth. Abla Junaidi, Jadel Khoury, Beyrouth, RFI.
Et j'ajoute qu'un avion militaire allemand a été envoyé au Liban pour évacuer du personnel diplomatique et leur famille, du personnel de l'ambassade non essentiel, précise le communiqué à Berlin. Les secours toujours à pied d'œuvre dans l'Est et le Sud-Est des États-Unis, notamment en Caroline du Nord, particulièrement touchée par l'ouragan Helene. Le bilan s'est alourdi, au moins 100 morts. Les vents, la pluie ont aussi fait de très lourds dégâts matériels. Cela a provoqué la fermeture de routes notamment et des coupures d'électricité. Le prix Václav Havel du Conseil de l'Europe décerné aujourd'hui à Maria Corina Machado, l'opposante vénézuélienne qui vit dans la clandestinité. Et cela depuis la réélection contestée du président Nicolas Maduro au mois de juillet. La lauréate a dédié son prix à ceux qui luttent pour la liberté au Venezuela. Une nouvelle prise de l'armée russe dans l'est de l'Ukraine, la localité de Nelipivka dans la région de Donetsk. C'est ce qu'a annoncé l'armée russe en ce jour anniversaire, entre guillemets, pour Moscou, ce jour qui marque l'annexion de 4 régions ukrainiennes il y a 2 ans. À cette occasion, Vladimir Poutine a assuré que tous les objectifs seront atteints en Ukraine. Chacun son tour au Royaume-Uni. Après les travaillistes, ce sont les Tories qui tiennent en ce moment leur congrès. Ça dure jusqu'à mercredi. Le parti conservateur réunit pour la première fois depuis la cuisante défaite électorale de juillet, qui se retrouve donc désormais dans l'opposition après avoir passé 14 ans au pouvoir. Alors qu'attendent les Britanniques de cette nouvelle phase politique ? Reportage Emeline Vin.
Les conservateurs ont perdu près de 200 sièges lors des élections de juillet, le pire résultat de leur histoire. Pour Liam, le parti va maintenant devoir profiter du congrès pour tirer les leçons de cet échec et trouver un successeur à Rishi Sunak.
Ils n'ont pas été élus. Il faut qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas correspondu aux attentes du public et qu'ils doivent changer. Mais leur prochain chef ne tiendra probablement pas jusqu'aux prochaines élections. Je pense qu'il faudra plusieurs leaders avant qu'ils résolvent leurs problèmes.
Sur le plan institutionnel, Stephen craint que les Tories ne jouent pas leur rôle de première force d'opposition.
Ils doivent se reconcentrer. Le plus logique serait de prendre un peu de recul pour se réorganiser. Ils sont si divisés, beaucoup de conservateurs ont rejoint les partis d'extrême droite. Partant de là, ce sera compliqué de jouer un rôle efficace d'opposition.
En parallèle de cette déroute conservatrice, les travaillistes au pouvoir dégringolent dans les sondages. Phoebe est encartée chez les jeunes du Labour.
Ils n'ont pas eu une situation facile et les changements que le gouvernement souhaite vont prendre 1 an ou 2 ans. Cela va prendre du temps de résoudre les problèmes. J'espère que les conservateurs sauront être un parti d'opposition responsable.
Le Parlement, en pause pour la saison des congrès, recommencera à siéger la semaine du 7 octobre. Emeline Vin, Londres, RFI.
Le Royaume-Uni qui a tourné une page avec la fermeture ce lundi de la dernière centrale à charbon du pays. Étape symbolique vers l'objectif affiché de Londres, la décarbonation totale de son électricité d'ici 2030. En France, le procès risqué pour le RN qui s'est ouvert à Paris, le Rassemblement national, sa dirigeante Marine Le Pen et une vingtaine de cadres soupçonnés d'avoir détourné des fonds européens pour de faux assistants parlementaires qui étaient en fait des salariés du parti, selon l'accusation. Marine Le Pen s'est dite très sereine à l'ouverture de ce procès. Les préparatifs de la déclaration de politique générale du Premier ministre, le grand oral de Michel Barnier, ce sera demain pour présenter sa feuille de route devant une assemblée très fragmentée qui l'attend au tournant. Selon son entourage, Michel Barnier ne sollicitera pas de vote de confiance. Et puis 33 ans et déjà retraité, on ne l'avait pas vu venir, Antoine Griezmann prend sa retraite internationale. Dans une vidéo sur X, le vice-capitaine de l'équipe de France, champion du monde 2018, explique vouloir tourner la page et laisser la place à la nouvelle génération. Le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, a salué un joueur d'exception. 17h10, ici à Paris. Vous m'en direz des nouvelles tout de suite avec vous, Jean-François Cadet.
Merci, c'était le journal de Charlotte Hydrac.